Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Ça se dispute, accompagné de Julien Drey et Alexandre Devecchio. On va se disputer dans un instant, mais avant cela, on fait un point sur l'information avec Mathieu Devez.
40 pays en quête de solutions pour résoudre la crise alimentaire lors d'une conférence à Berlin. Les échanges portent notamment sur l'augmentation de l'aide aux pays les plus touchés. L'invasion russe de l'Ukraine avec le blocus imposé au port de la mer Noire fait grimper les prix des denrées alimentaires et contribue à la flambée mondiale de l'inflation. Au procès du 13 novembre, la défense de Salah Abdeslam plaide contre une peine de mort sociale. C'est la dernière journée de plaidoirie pour la défense de Salah Abdeslam dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. Le parquet national antiterroriste a réclamé la plus lourde peine du code pénal, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Plus de 10% du vignoble bordelais touché par la grêle, 14 000 hectares ont été touchés par les deux épisodes de grêle du mois de juin. Lundi, les pompiers sont intervenus 862 fois dans le nord de la Gironde et dans l'agglomération de Bordeaux, où sont tombés des grêlons de la taille de balles de golf.
Voilà pour le point sur l'information. On va tout de suite partir aux États-Unis avec cette image, puisque c'est un tournant historique pour le droit à l'avortement aux États-Unis. La Cour suprême a révoqué, ce qui veut dire que les États seront libres de l'interdire. Vous voyez cette image. Alors pourquoi on est à Washington? Tout simplement parce que la Cour suprême siège à Washington, non loin du Capitole, que des centaines, voire des milliers d'Américains sont déjà en train de manifester. Joe Biden, vous avez entendu son allocution, c'était il y a quelques instants. On va réécouter le président américain qui considère que c'est un jour triste pour le pays. Il dénonce une erreur tragique, résultat d'une idéologie extrémiste. Les mots sont très forts de Joe Biden. On l'écoute.
Aujourd'hui, nous vivons un moment peu solennel. Aujourd'hui, la Cour suprême des États-Unis a expressément privé les Américaines d'un droit. Ils privent les Américaines de ce droit. Cela n'avait jamais été fait auparavant. Mais la Cour suprême a pris cette décision. C'est un jour triste pour la Cour et pour le pays.
Et on va prendre tout de suite la direction des États-Unis, rejoindre notre correspondante Elisabeth Guedel. Merci d'être avec nous. Je donne l'une des dernières informations, puisque le Missouri annonce être le premier État à interdire l'avortement après la décision de la Cour suprême. On a besoin de comprendre d'abord, Elisabeth, en quoi cette décision est historique. C'est un arrêt qui date d'il y a 50 ans et qui vient changer, bousculer complètement la société américaine.
Oui, c'était une décision de justice qui datait de 50 ans et qui faisait jurisprudence et qui garantissait à toutes les femmes des États-Unis, quel que soit leur lieu d'habitation, l'accès, la possibilité d'avoir un avortement, encore une fois, n'importe où elles habitent. Eh bien, ce droit, cette garantie, c'est terminé. Maintenant, près de 40 millions de femmes susceptibles d'être enceintes se retrouvent dans des États qui vont interdire l'avortement, qui ont des lois prêtes à interdire l'avortement dans les prochaines heures ou les prochains jours. Vous l'avez dit, Missouri n'a même pas attendu très longtemps, hein, puisqu'il a déjà annoncé, donc c'est la fin de l'accès à l'IVG dans cet État du Missouri. Et donc, c'est effectivement une très grosse douleur pour une partie des États-Unis, une impression de régression pour une partie des États-Unis. On a entendu Joe Biden, le ton était très sombre, hein, et il a promis d'agir comme il pouvait, mais il a aussi reconnu que la Maison-Blanche ne peut pas grand-chose, que c'est au Congrès de décider, de revenir sur cette décision éventuellement. Et donc, il a appelé les Américains, évidemment, c'est opportun, à aller voter au mois de novembre, puisque ce sont les mid-terms, les législatives, et donc de voter pour des démocrates qui qui pourront, au Sénat en tout cas, revenir sur cette décision de la Cour suprême. C'est très difficile hein, de revenir sur une telle décision de la plus haute juridiction du pays. Et ce sont les juges les plus conservateurs donc, qui ont eu gain de cause, ceux qui lisent la Constitution de façon la plus littérale. Ils ont dit il n'y a pas d'avortement dans la Constitution, on n'en parle pas, donc il n'y a pas de droit à l'avortement. Donc c'est cette tendance maintenant de la Cour suprême, et Joe Biden en a parlé, hein, ça risque d'avoir des répercussions sur d'autres décisions, sur le mariage homosexuel du même sexe ou sur d'autres décisions à l'avenir. Donc c'est vraiment un moment très important que vivent les Américains actuellement, et c'est un pays qui est plus que jamais très divisé.
On va revenir justement. Merci beaucoup Elisabeth Guedel. On va débattre dans un instant. Je donne juste ce qui avait été dit par cette Cour suprême il y a 50 ans. Le droit au respect de la vie privée présent dans le 14e amendement de la Constitution est suffisamment vaste pour s'appliquer à la décision d'une femme de mettre fin ou non à sa grossesse. Barack Obama a réagi, messieurs, sur Twitter. Aujourd'hui, la Cour suprême a non seulement renversé près de 50 ans de précédents historiques, elle laisse également au bon vouloir des politiciens et idéologues la décision la plus personnelle qu'il soit. Donald Trump a également réagi. Donald Trump qui considère que c'est la volonté de Dieu. Messieurs, est-ce que c'est un bond en arrière que font les États-Unis? Est-ce que c'est une régression sociale? Alexandre Devecchio, c'est à vous.
Ça dépend. Le problème parfois des progressistes, c'est qu'ils pensent que le progrès va toujours en avant et que la politique, c'est toujours donner de nouveaux droits. Là, effectivement, ça montre que la politique, ça peut être aussi de décider de revenir en arrière sur certains points quand on considère qu'on a été trop loin. Alors ensuite, moi, à titre personnel, je suis favorable effectivement à l'avortement, donc je peux voir ça comme une régression, mais je ne considère pas qu'il y a d'un côté une Amérique arriérée et de l'autre côté une Amérique moderne qui serait dans le camp du bien. Je pense que c'est un débat éthique extrêmement profond, la question de l'avortement, et je peux concevoir qu'une partie des Américains pense différemment que moi, et c'est ça aussi la démocratie. Je pense qu'il faut aussi expliquer cette décision. Premièrement, ça dit que l'avortement n'est pas un droit constitutionnel. Ensuite, il ne s'agit pas d'interdire l'avortement, il s'agit de redonner la liberté à chaque État de choisir leur législation. Il y aura des élections dans le Missouri. Si les électeurs trouvent que la décision du gouverneur du Missouri d'interdire l'avortement est scandaleuse, eh bien, ils pourront toujours le démettre et élire un démocrate ou un républicain plus modéré à la place. Ensuite, je pense
que la moitié, disons aux téléspectateurs, il y a 50 États aux États-Unis, plus de la moitié serait susceptible d'interdire l'avortement.
Je pense que j'en suis pas certain parce qu'il faut être aussi précis. Je pense qu'on en est arrivé là aussi aux États-Unis parce que la possibilité d'avorter va jusqu'à 22 à 24 semaines. Ça fait beaucoup. Ça fait 6 mois. En France, je crois que c'est 14 semaines. Donc il y a une grosse différence. Donc il y a beaucoup d'États qui vont simplement raccourcir les délais. Donc je suis pas sûr que ce soit aussi uniforme que cela. Voilà, moi je suis pour la possibilité des femmes d'avorter, mais je mets en garde quand on veut aller trop loin et étendre toujours plus de droits, comme c'était le cas en France, il y a un amendement qui a été proposé pour étendre l'avortement à 9 mois en cas de détresse psychosociale. Je ne sais pas ce qu'est la détresse psychosociale. J'avais trouvé ça extrêmement choquant et c'est le type même de décision qui peut faire que la société, à un moment donné, se braque. Donc faisons attention à ne pas braquer la société et respectons la démocratie américaine. C'est toujours bizarre quand des juges prennent des décisions, mais c'est le principe de la démocratie américaine. Et j'insiste aussi sur ce fait. Moi, ça me choque tout autant que des juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors là, en général, c'est des décisions très progressives en matière d'immigration, en matière de GPA, qui prennent des décisions. Et c'est encore plus problématique qu'aux États-Unis, puisqu'on n'est pas en Europe, dans un État fédéral. Donc c'est des gens totalement illégitimes qui prennent des décisions sans respecter les souverainetés populaires.
Je me tourne vers Julien Drey.
La question qui est posée,
oui.
Ce que j'entends, Alexandre, c'est pas de noyer le poisson. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on pense que c'est une bonne décision?
Complètement.
Et ma réponse est non.
C'est une régression sociale.
C'est une régression sociale. Et ce n'est pas le peuple américain qui a voté.
Non, c'est
neuf. Ce n'est pas la démocratie américaine. Ce n'est pas le peuple américain qui a été consulté et qui, au bout d'une consultation, etc. Donc, en arriver à dire, mais tout ça, ça s'explique par les progressistes, les machins, etc. Non, c'est neuf individus qui ont voté, neuf hommes, pour la plupart. Je crois que la majorité, ce sont des hommes, d'ailleurs. Mm. Une grande majorité d'hommes.
Elle est composée de femmes, hein, cette
Cour. Oui, il y a des femmes dedans. Mais
il y a neuf, en fait, juges suprêmes. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir à quel point c'est politique, puisque Donald Trump a pu nommer trois juges sur les neuf. D'où cette bascule.
Parce qu'on ne les nomme que quand il y en a un qui disparaît. Voilà. C'est pas un procès. Donc c'est totalement, c'est même pas démocratique, hein, parce qu'il faut attendre qu'il y en ait un qui meurt pour qu'on puisse le remplacer. Donc on est très très loin de la démocratie.
Une autre vision de la démocratie.
Mais de la démocratie.
C'est les règles du jeu aux États-Unis, je suis contre. Non, et je remarque.
Attends, je ne vous ai pas arrêté, donc je voudrais pouvoir.
Très bien.
Mais on est loin du compte de la démocratie citoyenne. Voilà. Après, on est pour les juges au-dessus, si c'est votre modèle.
C'est moi, pas... c'est pas mon modèle, je viens de dire que non. Mais bon, c'est le modèle des progressistes en Europe.
Non, mais voilà. Moi, je suis. Non, c'est pas le modèle des progressistes en Europe.
Oui, parce qu'on fait la même chose.
Je suis pour la démocratie citoyenne. Je suis pas pour que ce soit des juges qui se substituent à la démocratie citoyenne.
Mais on est d'accord là-dessus,
bon,
Julien.
Voilà. Donc ça, c'est la bonne chose. Deuxièmement, c'est une loi de classe. C'est une loi de classe. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Qui ne va pas pouvoir avorter? Les pauvres. Qui ne pourront pas prendre un bus ou pouvoir avoir l'argent pour aller dans un autre État avorter. C'est pas les autres.
Vous avez entendu d'ailleurs Joe Biden qui dit « Je soutiendrai les femmes qui traverseront les États pour aller avorter. »
Mais c'est ce qui se passait tristement en France. C'est d'ailleurs pour ça qu'on savait qu'il y avait beaucoup dans des conditions dramatiques de femmes qui prenaient le train de la gare du Nord pour aller en Angleterre, pour aller en Hollande, à l'époque quand on n'avait pas le droit à l'avortement en France. Ça sera la même chose aux États-Unis. Les femmes riches, elles pourront avorter, parce qu'elles prendront le train, prendront le bus, elles diront, personne ne leur dira rien. Mais les femmes pauvres, ils ne pourront pas, elles se retrouveront dans des drames terribles. Parce que l'avortement, c'est pas un plaisir. C'est pas un plaisir, on peut ergoter là-dessus. Mais l'avortement, c'est un choix personnel, et pour une part, ce choix personnel, il est souvent très difficile à prendre. Et c'est pas comme quelque chose qu'on prend comme ça à la légère. Voilà. Alors on pourra toujours me dire, j'ai eu des exemples, etc. Mais fondamentalement, toutes les dames avec qui j'ai pu parler, toutes les femmes qui ont été confrontées à cette question, et pas que les femmes, les hommes aussi, parce qu'ils étaient concernés, voilà, c'est une décision très difficile à prendre. Donc c'est une régression. C'est une régression qui est pas bonne. Pourquoi ? Parce que c'est un signal politique qui est donné à l'échelle de la planète. Là. Et l'Amérique qui a été pendant longtemps la référence, puisque vous parlez des progressistes, on disait la démocratie américaine, formidable, etc., elle donne un très mauvais signe à l'échelle de la planète.
Alors, on est d'accord au moins sur un point quand vous dites l'avortement, c'est toujours un choix difficile et un drame. Moi, je me reconnais tout à fait dans ce discours-là. J'y suis favorable, mais j'ai jamais considéré justement que c'était un droit fondamental. Je pensais que c'était une solution à moindre mal dans certaines situations dramatiques, notamment pour des femmes qui étaient en situation de détresse. Or, justement, en France, on a fait supprimer cette idée de situation de détresse. Il y avait normalement, on devait voir un psy avant de se faire avorter. On a supprimé ça. On a voulu aller encore plus loin. Donc moi, je trouve que la position de Julien Dray est justement raisonnable. Elle ne n'analyse pas l'avortement, elle rappelle que c'est quelque chose de compliqué et je trouve qu'on est dans une logique de banalisation qui, à la fin, va faire le jeu peut-être des plus conservateurs et des plus réactionnaires. Ensuite, on a un point encore où on est tout à fait d'accord. Moi, je trouve que la démocratie des juges, c'est très mauvais, mais il faut la dénoncer partout. Et encore une fois, la pente de nos démocraties européennes, c'était pas notre culture, c'est d'étendre les pouvoirs des cours constitutionnelles, d'étendre les pouvoirs des juges européens. Et par exemple, j'entends peu de progressistes, mais je parle pas de vous, de gens dits progressistes, contester par exemple quand la Cour européenne des droits de l'homme fait qu'on est obligé de reconnaître les GPA en France, qui va peut-être conduire à la fin à faire que la GPA va devenir aussi une possibilité, voire un droit en France. Et c'est un peu la marchandisation du corps des femmes sous prétexte de progrès, tout ça par des juges non élus, donc ça me choque aussi. Donc dans les deux cas, je pense que la démocratie des juges, il faut la dénoncer. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à donner des... Je pense que cette décision, si j'étais américain, je ne l'approuverais pas, mais j'ai du mal à donner des leçons de démocratie aux Américains. C'est un débat profond là-bas. Et je pense que c'est plus compliqué que d'un côté les arriérés et de l'autre côté ceux qui sont pour le progrès et dans le camp du bien.
Le débat, c'est pas, il ne s'agit pas de donner des leçons. D'abord, pourquoi ? Pour une raison simple. C'est que cette décision, ce n'est pas une décision qui concerne que les États-Unis. Si. Vous voyez bien. Mais si, elle dépasse les États-Unis par l'écho mondial qu'elle implique et par la manière dont elle va être utilisée, instrumentalisée.
On va voir les déclarations de tous les chefs d'État pour l'instant. Il n'y a pas eu de réaction d'Emmanuel Macron, mais Justin Trudeau
parle d'une
décision horrible.
Ce n'est pas qu'une décision américaine prise par le peuple américain et puis on s'incline. C'est une décision prise Et en ce sens-là, oui, je le dis, moi j'ai toujours été contre la République des juges et j'ai toujours combattu à l'Assemblée nationale tous les gouvernements qui trouvaient la bonne idée d'aller mettre des commissions de je sais pas quoi qui étaient au-dessus de l'Assemblée nationale. On voit bien les dangers que ça représente. Voilà. Mais moi, si vous voulez, c'est sur le côté la détresse humaine que ça génère. L'avortement a été un long combat des femmes, mais pas par... c'était une liberté conquise face à la détresse que représentait. Parce que derrière, il y aura des drames humains. Parce qu'un enfant, il est accepté quand il est voulu, quand il a été conçu dans cette... parce que vous allez vous retrouver dans des situations terribles. Mais... des jeunes filles qui ont été violées. Des jeunes filles qui ont été violées et qui se retrouvent enceintes. Dans ces états-là, elles feront comment ?
Intéressant.
Non, c'est intéressant, mais moi, encore une fois,
la question, j'ai demandé
encore
à
une fois, si j'étais américain, je serais sans doute contre cette décision. Je serais peut-être pour qu'on amende, parce que je trouve que 22 à 24 semaines, c'est beaucoup. Je serais pour laisser peut-être un peu de liberté aux États, mais effectivement, cette décision peut avoir des conséquences sociales terribles, puisque ça va être dans les États conservateurs. Souvent, les filles pauvres ne pourront pas voyager. En réalité, les catégories aisés pourront aller d'un état à l'autre se faire inventer. Ça va toucher, il va y avoir une forme d'inégalité que je trouve choquante. Mais moi, je m'incline quand même devant la décision des États-Unis parce que je ne considère pas qu'on vit encore sous la bannière étoilée. Julien Dray dit que c'est une décision qui va avoir un impact mondial. J'espère que non, que l'impérialiste américain a des limites et qu'on est encore capable nous-mêmes de prendre nos décisions. Et effectivement, démocratie américaine confie beaucoup de pouvoir aux juges, mais c'est pas nouveau, c'est pas le fait de Donald Trump. Oui. Et quand les démocrates sont au pouvoir, ils nomment des juges.
Pardonnez-moi, c'est pas le fait de Donald Trump, c'est quand même Donald Trump qui a nommé sur les 9 juges un tiers des juges. Et ce qui fait cette bascule.
Mais parce qu'il avait la possibilité de le faire. Est-ce que vous avez déjà vu des démocrates refuser de nommer des juges
Le problème, c'est pas celui-là. On peut nommer que Donald Trump nomme des juges. Il l'a fait dans l'optique d'essayer d'obtenir.
On va poser la question à Elisabeth Guedel.
Les choix qui ont été faits des juges, parce que il choisit, rappelez-vous, il a une liste, etc. Oui. Les choix qu'il a fait, il l'a fait dans l'optique de reconstituer une majorité qui puisse conduire à cela. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit, je salue l'œuvre de Dieu. Donc c'est le retour de Dieu en plus.
C'est la volonté de Dieu, a réagi Donald Trump. Et quand vous parlez des réactions internationales,
je suis pas sûr qu'il ait été consulté dans la réunion.
je n'en suis pas sûr effectivement. Mais regardons avant d'aller voir Elisabeth sur cette question. Vous parlez de république des juges, mais cette décision, elle est éminemment politique. Ce sont des juges qui ont une idéologie qui est apportée, soit républicain, soit démocrate. Justin Trudeau qui a réagi. Là aussi, déclaration très forte du Premier ministre canadien. Je pense qu'on va la découvrir à l'antenne. Mais il parle de décision horrible. Les mots sont forts quand même. Est-ce qu'on a la réaction de Justin Trudeau? On ne l'a pas. Je vais la chercher. Mais pendant ce temps-là, on va voir Elisabeth Guedel. Elisabeth, vous êtes encore avec nous. Merci. Elisabeth, j'avais une autre question sur la composition d'abord de cette Cour suprême et sur l'aspect très politique de cette Cour. Expliquez-nous un peu.
Il ne faut pas oublier que c'était une promesse même de Donald Trump. Il avait promis de nommer des juges qui allaient renverser cette jurisprudence vieille de 50 ans et qui garantissait le droit à l'avortement. Donc c'est une promesse tenue. Il avait dit qu'il le ferait. Il a eu la chance, si on peut dire, en 4 ans de présidence, de pouvoir nommer 3 juges. C'est énorme. Aucun président n'a pu faire autant en 4 ans seulement. Il a nommé des juges qui sont jeunes, hein, ils sont tous dans leur cinquantaine et qui sont très conservateurs. Et ces 3 juges ont rejoint les 2 autres qui est très conservateur au sein de la Cour suprême. Et donc, ça a basculé vers un camp conservateur. Donc, il y a 5 juges, si vous voulez, sur 9 qui sont très conservateurs. Il y en a un au milieu qui est un petit peu le juge Robert, qui est un petit peu le celui qui peut basculer dans un sens ou dans un autre, le swing juge. Et puis, il y a 3 démocrates, 3 progressistes. Donc c'est ça la balance, mais même, vous voyez, sur certains sujets, ça peut être 6-3 comme équilibre. Mais là, clairement, c'est une victoire de Donald Trump et ça va être très politique. Donald Trump va surfer sur cette victoire pour les élections mi-terme là, au mois de novembre. D'ailleurs, Joe Biden, hein, on l'a entendu, lui aussi surfe là-dessus en appelant à voter pour des démocrates, que ce soit au Congrès ou encore pour les gouverneurs, ceux qui dirigent les États.
Je crois que Julien Dray a une question. Allez-y, Julien.
Non, je voulais savoir combien il y a de femmes dans la Cour suprême.
Dans la Cour suprême, moi j'en comptais 1, 2, 3, c'est bien ça. Hein. Il y en a combien, Elisabeth? Moi j'en ai compté 4.
Alors, il y a... Ah non, il n'y en a plus quatre. Attendez, là, vous mettez un doute sur les démocrates. Il y en a une du côté des conservateurs, qui a été nommée par Donald Trump. Et puis, il y en a deux du côté des démocrates, je crois, du côté des progressistes.
Bon, en tous les cas, lorsque vous parlez de la jeunesse, effectivement, des juges du côté nommé par Donald Trump, Neil Gorsuch, il a 54 ans, Brett Kavanaugh, 57 ans, Amy Coney Barrett, 50 ans. Effectivement, ça veut dire que là, pour les prochaines générations, la vague conservatrice sera très importante dans cette Cour suprême.
Parce qu'il faut l'admettre comme tel, c'est pas des vieux grincheux. Qui sont d'affreux réactionnaires.
Ah non,
voilà, donc on a une vraie génération très conservatrice et c'est révélateur de ce qui est en train de se passer.
Chose promise, Justin Trudeau, la déclaration de Justin Trudeau, et ensuite on fera le point sur l'information, mais regardez son tweet. Quelques minutes après la décision de la Cour suprême, les nouvelles en provenance des États-Unis sont horribles. Je suis de tout cœur avec les millions d'Américains qui vont perdre leur droit légal à l'avortement. J'ai peine à imaginer la peur et la colère qui doivent vous habiter en ce moment. Point sur l'information, on fait un dernier tour de table là-dessus et puis ensuite on avance, on a énormément de choses à découvrir. Le point sur l'info, bien sûr.
Alors qu'une troisième plainte a été déposée contre elle, la secrétaire d'État au développement, Chrysoula Zakharopoulou, juge inacceptable et révoltante les accusations de viol la visant. Cette gynécologue de 46 ans est accusée par plusieurs anciennes patientes de viol et violences gynécologiques. L'inflation devrait atteindre en moyenne 5,5% en 2022, du jamais vu depuis 1985. Une flambée qui va peser sur l'économie avec une croissance attendue à 2,3% en 2022. Un coup dur annoncé pour le pouvoir d'achat des ménages en dépit des mesures de soutien public en place ou annoncées. En rugby, la finale du top 14 oppose ce soir le Castres Olympique à Montpellier. C'est au Stade de France, coup d'envoi à 20h45. Les deux équipes se sont déjà affrontées une fois en finale de top 14, c'était en 2018, avec une victoire de Castres.
Ça fait des sociétés.
Voilà pour le point sur l'information. On fait un dernier tour de table. Est-ce que Donald Trump est responsable de ce qui est en train de se passer aujourd'hui?
Alors oui, il est responsable, mais quoi qu'on pense de sa politique, moi encore une fois, je ne partage pas sa vision sur l'avortement, mais j'ai toujours trouvé que c'était intéressant chez Donald Trump, c'est son volontarisme politique. On est dans une époque où nous explique que les politiques ne peuvent pas mener telle ou telle politique, ne peuvent pas revenir sur des lois qui ont été votées. Preuve est que c'est possible. Ensuite, un mot sur Justin Trudeau, qui dit c'est horrible, etc. C'est là où peut-être que j'ai un désaccord avec Julien Dresse, c'est que je pense que l'indignation morale ne fonctionne pas dans ces cas-là. Elle est même contre-productive. D'ailleurs, sur Donald Trump, il a été diabolisé pendant 4 ans. Certes, il a perdu les élections, mais il a fait plus de voix que la fois précédente. Et là, il est pas mal placé pour incarner le camp républicain à la présidentielle. Donc je crois que c'est pas la meilleure manière, si vous voulez, d'aborder le débat. Et en plus, il dit c'est horrible. Mais moi, j'essaie de toujours me mettre du point de vue de celui qui pense pas comme moi. Effectivement, ceux qui sont contre le droit à l'avortement estiment aussi que l'avortement est horrible. Pour eux, c'est une forme de crime. Donc, être dans ce manichéisme-là, je crois que ça n'arrange rien, ça polarise la société. Et donc, on a un camp ultra-progressiste d'un côté, sur tout un tas de sujets, et de l'autre, un camp qui se braque et qui devient de plus en plus conservateur. C'est absolument ce qu'il faut éviter en France comme type de polarisation.
Le mot de la fin sur cette première partie avec vous, Julien.
Je pense que ce n'est pas un problème d'indignation morale. C'est pour ça que j'ai commencé tout de suite en disant c'est un drame social. Et c'est d'abord comme ça qu'il faut le prendre, par les conséquences que tout le monde va constater dans la vie des Américains et des Américaines, et ceux qui vont le plus avoir à subir les conséquences de cela. Alors après, c'est révélateur de ce qui est en train de se passer ce qui se passe aux États-Unis est aussi effectivement révélateur et doit interroger, il doit y compris nous interroger à nous. Sur les questions sociétales, il faut faire très attention qu'un certain nombre de minorités ne prennent pas le pouvoir, je dirais, médiatique, si vous me permettez ça, par le combat qu'elles mènent, et qu'elles aient l'impression qu'elles détiennent la vérité et qu'elles ne se rendent pas compte qu'il y a une partie de la société française qui ne les suit pas. Mmh. Et que c'est ça qui produit le retour de bâton. Mmh. Et c'est ça qui peut créer les blocages. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Les questions sociétales, il faut toujours, moi je me rappelle d'un débat, si vous me permettez de jouer l'ancien combattant avec François Hollande, y compris sur la manière dont les choses avaient été menées par la gauche sur la question du débat sur le mariage pour tous, etc. Il faut faire attention, il faut écouter quand il y a des réticences dans la société, il faut les prendre en considération, il ne faut pas les mépriser, parce que le sentiment de vouloir passer en force et les mépriser crée des crispations et donc forcément des retours. Ce n'est pas des choses simples, on joue sur des choses historiques qui ont des milliers d'années d'histoire, le papa, la maman, bon, et puis nous, tout d'un coup, on dit en avant, on a des minorités qui sont... Et puis, il y a des gens qui ne vivent pas ça de la même manière. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Mais le droit à l'avortement, je voudrais finir par ça, c'est un combat qui a été mené à l'échelle de la planète dans bien des pays, parce qu'il représentait effectivement quelque chose de dramatique pour toutes ces femmes qui ne pouvaient pas avoir ce droit.
Je suis 100% d'accord avec Julien Drey.
La première partie est terminée, alors je vous en veux parce qu'on avait tellement de thèmes, mais on va faire une croix sur beaucoup d'actualités. C'est aussi le charme de cette émission et le charme du débat. On va parler d'Emmanuel Macron qui est désormais le chef des compromis. On a encore parlé de compromis. Est-ce qu'il faut le croire, Emmanuel Macron? Et puis, je sais que vous aviez été choqué par les propos de Jean-Luc Mélenchon, la police tue. Et vous aviez une analyse, vous considérez que cette déclaration l'a mis en difficulté pendant les élections législatives.
Moi, je pense surtout qu'elle a fait élire des députés Front National.
Et il a fait élire des députés. Ben, je peux vous dire qu'il y a des députés qui persistent et signent du côté de la France Insoumise. Notamment le Benjamin, Louis Boyard, on va l'entendre. La pub. 19h30, la deuxième mi-temps de 16 disputes avec Julien Drey et Alexandre Devecchio. On fait le point sur l'information et ensuite, j'ai une information pour vous, messieurs, principale. Le président de la République nous écoute. Rappelez-vous, 19h17,
heureusement
le président, on le dit, Emmanuel Macron, le président, n'a pas réagi après la révocation du droit à l'avortement aux États-Unis. 19h24, tweet d'Emmanuel Macron. On va le découvrir après le point sur l'information.
Un an de prison, dont 6 mois avec sursis, requis en appel contre les ex-dirigeants de France Télécom. Selon le ministère public, l'ancien PDG Didier Lombard et son ex numéro 2 sont coupables d'avoir conçu et mis en place une politique de harcèlement moral ayant conduit des salariés au suicide entre 2007 et 2008. À partir du 1er juillet, le plafond de dépenses avec la carte ticket restaurant baisse. Il passe de 38 à 19 euros. La mesure devait prendre fin le 28 février et retrouver son montant d'avant-pandémie. Elle avait été prolongée. Au Maroc, 5 migrants morts et 76 blessés lors d'une tentative d'entrée dans l'enclave espagnole de Melilla. Au total, près de 2000 migrants ont essayé de pénétrer dans cette enclave qui fait régulièrement l'objet de tentatives d'entrée pour rejoindre l'Europe.
Voilà pour le point sur l'information. Découvrons donc la réaction du chef de l'État français après donc cette information, ce tournant historique pour le droit à l'avortement aux États-Unis, puisque la Cour suprême l'a révoqué. L'avortement est un droit fondamental pour toutes les femmes. Il faut le protéger. J'exprime ma solidarité avec les femmes dont les libertés sont aujourd'hui remises en cause par la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Voilà. Vu qu'on a passé la première partie de l'émission à traiter ce sujet, on avance un tout petit peu et on va rester sur Emmanuel Macron. Difficile de régner quand on perd les pleins pouvoirs à l'Assemblée nationale, sans majorité absolue mais avec une majorité relative. Il va devoir donc s'adapter. Le chef de l'État va mettre de côté les affaires intérieures pour enchaîner quelques déplacements pendant toute une semaine à l'étranger. Mais ça ne l'empêche pas de réagir sur cette actualité. On va écouter donc Emmanuel Macron. La situation parlementaire française est en fait affreusement banale, un peu comme dans plusieurs États européens. Écoutons.
Considérer que notre Europe doit être une Europe démocratique et forte et déplorer le fait que la plupart des gouvernements et des parlements reflètent la vitalité démocratique de nos pays. Et il a pu m'arriver qu'on me reproche d'avoir trop de pouvoir parce que des majorités trop claires. La France est dans une situation parlementaire qu'elle a connue d'ailleurs en 1988, peu de choses de différence, mais elle est surtout affreusement banale au niveau européen. Sur l'ensemble des États membres, il y en a une vingtaine qui ont des gouvernements de coalition, et certains avec 5, 6, 7 partenaires, ou d'autres qui agissent en gouvernement minoritaire. Donc je ne crois pas une seule seconde. La question qui nous est posée à tous, dirigeants européens, dans des pays, on le voit bien, où les divergences montent, parfois les extrêmes montent, ce qu'on a vu aussi dans notre pays, C'est de bâtir des compromis pour pouvoir convaincre tout le monde, en tout cas le maximum, obtenir des majorités constructives.
Bon, vu qu'il nous regarde, on ne va pas être trop dur, mais est-ce qu'il est en train de nous... C'est de l'enfumage, en quelque sorte, ou il minimise cet échec aux législatives, Alexandre
Devecchio ? Sans doute, il fait de la politique et il tente de minimiser, mais en fait, sur le fond, je suis assez d'accord avec lui. Ça contredit l'Emmanuel Macron qui nous expliquait sur le tarmac qu'il avait besoin d'une majorité solide, qu'il était le seul à incarner la République, tout de même. Donc là, c'était vraiment un manque de respect, une forme de mépris pour ses adversaires et pour la démocratie. Là, il semble avoir compris le message des Français. Moi, je suis de ceux qui pensent que le résultat des législatives n'est pas du tout une catastrophe démocratique. Au contraire, c'est une bonne chose pour la démocratie. Le fait que le RN, par exemple, n'était pas jusqu'ici à l'Assemblée nationale était une forme de déni de démocratie, voire un scandale démocratique. Je crois que ça recouvre le résultat du premier tour de la présidentielle, finalement. Donc, qu'il y ait un peu de diversité idéologique à l'Assemblée nationale, je trouve que c'est une très bonne chose. Et ça va effectivement obliger à Emmanuel Macron à gouverner en tenant compte, effectivement, de la diversité du pays, en respectant ses adversaires. Et donc, il a l'air, là, pour une fois, de sortir de la pensée unique et peut-être même du fantasme du parti unique qu'il pouvait nourrir.
Mais avec une telle Assemblée nationale divisée...
Non, je pense que, si vous me permettez, je pense qu'il fait deux choses. D'abord, il essaye de dédramatiser, parce qu'il sait que la France est regardée. Il sait qu'il est regardée, y compris par les marchés, par toute une série d'investisseurs. Il essaye de rassurer en disant, attendez, la France n'est pas... en train d'exploser. Ça, il est dans son rôle de président de la République qui représente la France et qui doit essayer à l'étranger de dédramatiser cette situation. Deuxièmement, il explique quelque chose qui est compliqué parce que la France n'a pas l'habitude des coalitions. La Ve République n'a jamais fonctionné comme ça. Donc c'est et le problème, c'est pas la coalition. Le principe en lui-même, il est pas mauvais, c'est-à-dire de dire à un moment donné, on construit une majorité d'idées à partir d'un projet, d'un programme. La Ve République, elle a pas été conçue comme ça. Donc évidemment, on va voir ce qui va se passer. La question qui est posée, c'est la question qui est posée aux forces politiques à l'intérieur de l'Assemblée nationale, parce que certes la diversité existe, mais le problème, c'est est-ce que les institutions vont être bloqués ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir la capacité, justement, de surmonter un certain nombre de divisions et de trouver les éléments de convergence ? Parce que les coalitions auxquelles fait référence le président de la République sont des coalitions qui donnent lieu d'abord à une élaboration en commun d'un projet, d'un programme. Et à partir de là, on met en place ce progrès. Alors, chacun, les Allemands, par exemple, ils y passent des semaines et des semaines. Puis après, ils appliquent. Là, on n'est pas à ce stade-là des choses. Donc, le danger, malgré tout, c'est que, certes, au départ, tout le monde dit c'est la diversité, mais que cette diversité, elle conduise à la paralysie. Parce que personne ne veut prendre de responsabilité, tout le monde étant déjà dans un calcul de l'après, c'est-à-dire de la future élection présidentielle à venir.
Eh bien écoutez, Emmanuel Macron, lui, il y croit au compromis politique. On l'écoute.
La France, elle sait faire des compromis, y compris votre serviteur. On passe notre vie à en faire ici. On passe notre vie à bâtir des solutions avec des gens qui ont des intérêts, qui des sensibilités, qui ne sont pas les nôtres, pour bâtir des textes et des décisions. Pourquoi serions-nous incapables de le faire dans une assemblée avec des femmes et des hommes, pour autant qu'ils ont des sensibilités différentes, mais s'inscrivent dans le champ républicain et de la volonté de gouverner, de faire avancer le pays? Donc moi, je suis très confiant parce que je crois dans la bonne volonté des femmes et des hommes qui sont là pour représenter la nation. Et donc je pense que les choses avanceront.
Pendant 5 ans, Alexandre Devecchio, peu, voire pas de compromis ont été faits avec les partis de l'opposition. Et là, tout va changer. C'est donc... la révolution du côté de la majorité de l'exécutif.
Souhaitons que tout change. Sinon, effectivement, on ira vers une situation de blocage. En réalité, Emmanuel Macron tient ce discours-là parce qu'il y est obligé par le nouveau contexte issu du résultat des élections législatives. Mais voilà, vous avez raison de souligner le décalage. Vous n'avez même pas besoin de refaire tout son mandat. Il suffit de rappeler sa petite phrase « La République, c'est moi », qui ressemblait d'ailleurs à celle de Jean-Luc Mélenchon, pour voir qu'il y a eu une évolution très importante. Tant mieux s'il est capable d'évoluer et s'il a entendu le message des Français. Moi, je pense qu'il a un problème, Emmanuel Macron, c'est qu'il a un projet finalement flou. Faut faire des compromis, mais faire des compromis sur quoi ? On a eu très peu de campagne électorale, à part la réforme des retraites, qui n'est pas le sujet le plus consensuel. Et donc, c'était ce qui était un peu étonnant dans son intervention de mercredi, c'est qu'il réclamait des combinaisons, des compromis, mais on ne savait pas pour aller vers où. Et je crois que c'est ce qui manque à Emmanuel Macron, et que finalement, finalement le résultat des élections. Moi, je pense que les Français ont dit oui à Emmanuel Macron. Ils l'ont élu président de la République parce que c'était la figure la moins inquiétante. Mais ils ont dit non au macronisme, en réalité. Donc là, le président de la République a parfois l'air de vouloir quand même appliquer son projet et de l'amender. Moi, je crois qu'il doit faire sa propre révolution et repenser totalement le projet pour trouver un projet qui s'accorde peut-être plus au désir profond du pays. Je pense que en faisant Mélenchon et Le Pen, en leur permettant d'avoir un nombre de députés important, les Français ont dit qu'ils voulaient une politique peut-être un peu plus sociale. Ils ont peut-être dit aussi qu'ils voulaient une politique moins européenne, puisque pour la première fois, la France du non, celle qui avait voté non en 2005, qu'elle soit de gauche ou de droite, est représentée à l'Assemblée nationale. Moi, pour un homme qui est mon premier vote, je ne vous le cache pas, c'était le référendum de 2005, j'avais voté non, et ben ça me réjouit que d'une certaine manière, je sois un peu mieux représenté à l'Assemblée nationale. Donc il va falloir changer de paradigme. Ça, je ne sais pas si Emmanuel Macron l'a compris.
Et vous, Julien Drey, vous aviez voté non ?
Non, je n'ai pas voté non. Et je rigole parce que la frange du non, c'est celle qui voulait sortir, qui, dans sa logique, avait pris comme position...
contre le traité constitutionnel.
D'accord, mais après, qui, dans sa logique, notamment en 2017, voulait sortir de l'Europe. C'était la position du Front National.
Le Frexit.
C'était la position du Front National, c'était la position de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont corrigé. D'ailleurs, c'est ceux qui ont mené bataille politique pendant cette présidentielle ont eu tort, d'après moi, de ne pas prendre à témoin l'opinion publique sur ces évolutions, y compris évolution de l'opinion liée à ce qui s'était passé en Angleterre. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron est en train... D'ailleurs, je trouve que ça se voit même physiquement parlant, quand on l'observe, est en train de se remettre au centre de la vie politique. Je pense qu'il y a eu, comme on dit, un creux après la présidentielle. On le voit bien, il est plus à l'aise et il prend la bonne position. Parce que désormais, maintenant, lui va dire « mais moi, je suis pour les compromis ». Je suis l'homme de l'ouverture, je suis l'homme qui veut faire la synthèse. Il se donne donc d'un certain point de vue le beau rôle et il met tous les autres devant le fait accompli. Et donc maintenant, c'est ceux qui sont au Parlement qui vont être obligés de se positionner par rapport à ce compromis. Et on voit bien qu'en fait, sur le fond, il a une cible. Parce que dans cette affaire politique, il y a une cible. Il ne va pas faire un compromis avec... il peut faire un compromis ponctuel sur tel ou tel aspect des choses, mais je pense sur la conduite de la politique nationale de la France, il a une cible. C'est les Républicains. Ah. Parce que c'est là que, potentiellement, il y a une majorité à lui, il y a une possibilité pour lui de construire une majorité. Et donc, c'est comme ça qu'il essaye de faire. C'est-à-dire que la pression, il est en train de l'exercer sur les Républicains, qui, dans un premier temps, jouent le dernier carré de résistance en disant « nous, jamais, jamais, jamais ». Et lui, il dit « bon, ben, dans ces cas-là, vous allez paralyser la vie institutionnelle. Et vous allez me mettre dans une situation de blocage ». Ça, ça prépare le deuxième temps. C'est-à-dire que s'il y a blocage, il sera amené à prendre l'opinion publique à témoin. Vous voyez, tout est bloqué. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais je retrouve une position mitterrandienne que j'ai connue quand j'étais jeune, au moment justement des formes de cohabitation.
Julien Drey, on a l'impression quand on l'écoute qu'Emmanuel Macron a plus d'un tour dans son sac. Alors que lorsqu'on l'a entendu la semaine dernière sur le tarmac à l'aéroport d'Orly, on avait l'impression qu'il faisait all-in et qu'il avait perdu en quelque sorte ce pari-là. Donc c'est lequel, Emmanuel Macron ?
Non, en réalité, sur le plan institutionnel, la situation n'est pas si dramatique que ça pour Emmanuel Macron. Il peut faire passer un certain nombre de choses. On va le voir avec Elisabeth Borne. Si elle ne demande pas la confiance de l'Assemblée nationale, elle pourra rester en place. Elle ne sera pas démise, parce qu'il va y avoir des motions de censure, mais chaque parti va faire sa propre motion de censure et finalement, pas voter celle des autres partis. Pour qu'il y ait une majorité contre lui, il faudra que tout le monde se ligue contre lui. Donc, il a quand même la marge de manœuvre pour faire voter des lois. Mais encore une fois, la question est pourquoi faire ? Moi, je pense que c'est ça qui a été révélé par cette non-majorité. C'est que faire des lois techniques, technocratiques, je crois que les Français n'en veulent plus. Donc il faut faire la politique autrement. Il faut aussi changer de logiciel. Le logiciel Bercy, McKinsey, Bruxelles, je ne suis pas sûr que ce soit ça que veulent les Français. Et ça, est-ce qu'Emmanuel Macron en est capable ? Effectivement, là, moi, de ce que je comprends, c'est qu'il a effectivement, Julien Drey a raison, un discours apaisant, mais pour renvoyer la patate chaude à ses adversaires et dire, voyez, ce sont eux qui bloquent. Et s'il est bloqué, il va dissoudre l'Assemblée. C'est ce qu'on entendait de la part des députés macronistes dès le soir des résultats. Et là, ça me rappelle le Brexit, si vous voulez. Et il disait, oh, on a perdu nos sièges qu'à quelques voix. On va faire des images, je l'ai entendu, je ne citerai pas le nom, des gens excités de la France insoumise, ça va être tellement le bordel que les gens vont revoter pour nous. Si c'est ça, je pense qu'il se trompe, parce que ça renvoie au Brexit, où on nous avait expliqué que les gens avaient mal voté, n'avaient pas compris. Eh bien, il y a eu ensuite les élections européennes qui ont confirmé, il y a eu Boris Johnson qui est devenu logiquement Premier ministre, il a réorganisé des législatives, et le résultat du Brexit a été confirmé. Donc si je crois que si la technique d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de faire passer son programme technique, de miser sur le bordel, de faire une dissolution pour continuer comme si de rien n'était, je pense que là, il ne prend pas la mesure de la crise politique qu'on est en train de vivre.
On avance un petit peu. Juste un point sur l'information. Non, allez-y. Alors, en 30 secondes, s'il vous plaît.
Non, je dirais, ce que décrit Alexandre, c'est dans un monde apaisé. On n'est pas dans un monde apaisé. On a une situation économique qui va être très dégradée. On voit bien avec l'inflation. Donc il va falloir prendre des décisions pour protéger les Françaises et les Français. On est dans un contexte quand même de guerre aux portes de l'Europe avec la pression qui existe. Donc moi, je ne crois pas que ça soit simplement des petites lois techniques pour faire plaisir à telle ou telle catégorie de Français. Il va falloir conduire une politique économique et sociale équilibrée, juste dans un moment très difficile.
19h45, un point sur l'information. Et on terminera l'émission avec la dernière déclaration du... fraîchement député Louis Boyard, qui est le Benjamin. Vous savez que c'est le plus jeune député de métropole. Il a 22 ans et il considère que la police tue.
Aux États-Unis, la Cour suprême révoque le droit à l'avortement. Conséquence, les États sont désormais libres de l'interdire. Les États-Unis reviennent ainsi à la situation en vigueur avant 1973, quand chaque État était libre d'interdire ou d'autoriser les avortements. Joe Biden dénonce une erreur tragique, résultat d'une idéologie extrémiste. Au procès du 13 novembre, la défense de Salah Abdeslam plaide contre une peine de mort sociale. C'est la dernière journée de plaidoirie pour la défense de Salah Abdeslam dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. Le parquet national antiterroriste a réclamé la plus lourde peine du code pénal, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. En Bretagne, la pénurie d'eau inquiète avant l'été et particulièrement sur l'île de Groix qui connaît une sécheresse exceptionnelle. Début juin, la totalité de cette île a été placée en situation de crise, soit le niveau de gravité le plus élevé. Des restrictions sont mises en place dans ce lieu touristique.
Voilà pour le point sur l'information. Jean-Luc Mélenchon avait provoqué un tollé en tweetant après le refus d'obtempérer dramatique à Paris. La police tue. Eh bien, Louis Boyard, député de la France Insoumise du Val-de-Marne, plus jeune député de métropole, a aujourd'hui soutenu les propos de son patron. Pour lui, c'est un fait. La police tue. On l'écoute et on en parle.
Sur cette question-là, il y avait même eu un débat juste avant, il me semble, le premier tour des élections législatives, où Mélenchon avait dit « la police tue ». Et c'est un fait que la police tue. La question, c'est de savoir si elle a le droit ou pas de tuer. Et moi, je pense que dans l'affaire Adama, la police n'avait pas le droit de tuer. Et c'est ça qu'on veut porter, c'est de dire que ce n'est pas normal que, par exemple, dans le cas Adama, mais dans le cas de Steve Maya Canisso, qui a été qui est mort noyé après une charge de police, où ni la préfecture, ni l'État, ni les députés ne reconnaissent qu'il y a une responsabilité de l'État dans tout ça. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que c'est même l'institution policière qu'on jette le discrédit.
Julien Drey, il a 22 ans, c'est une erreur de jeunesse ou c'est une idéologie ancrée chez les insoumis ?
Non, c'est une confusion surtout. C'est une confusion. Parce que le commissaire Lebas qui était sur ses plateaux cette semaine, il dit oui, la police elle tue. Elle ne le fait pas par plaisir. C'est pas un choix. Elle le fait parce qu'en face d'elle, elle a des gens ou qui veulent s'en prendre et tuer les policiers ou qui veulent tuer d'autres gens et donc elle intervient. Donc le mot « la police tue » en soi, bah oui, c'est ça, malheureusement, ça fait partie du métier de policier. C'est pas une joie, c'est pas un plaisir. Et un policier qui utilise son arme et qui tue quelqu'un, il rentre pas chez lui tranquille en disant « j'en ai eu un », etc.
Déjà, il va en garde à vue, en plus.
Voilà. Voilà, donc ça, c'est autre chose. Maintenant, lui, ce qu'il essaye d'expliquer, c'est à partir de cette expression-là, il essaye d'expliquer que c'est maintenant une sorte de fonction sociale de la police, et c'est pas vrai, parce que par ailleurs, quand, à chaque fois qu'il y a mort d'homme, il y a enquête, il y a vérification. Alors après, on peut dire « nous, on n'est pas d'accord avec l'enquête », etc. Mais moi, je pense que cette expression utilisée par un responsable politique à un moment donné, où justement les questions d'insécurité, de violence, où la difficulté du métier de policier existe et est réelle, n'est pas simplement une maladresse, c'est une faute politique. Et je pense qu'elle inquiète une partie de la population à juste titre, qui se disent « mais alors, est-ce qu'on va avoir une police qui nous défend, qui nous protège, ou est-ce qu'on va avoir une police qui va tellement être paralysée par le procès qui lui est fait qu'elle ne fera plus rien ?»
Alexandre, il vous reste une minute.
Poussons la logique de ce monsieur jusqu'au bout. C'est un fait, la police tue, mais est-ce qu'il faut continuer à lui en donner le droit? Il faut lui rappeler quand même que l'État détient le monopole de la violence légitime. Et si demain, la police n'a plus le droit de tuer, alors dans un certain cadre, hein, quand elle est en position de légitime défense ou quand elle doit défendre le citoyen qui est menacé, mais si demain la police n'a plus ce droit-là, c'est la loi de la jungle. Ça veut dire que les gens vont se faire justice eux-mêmes. Donc c'est très grave. Ensuite, je partage le diagnostic de Julien Drey. Je pense que ça inquiète très profondément une partie de la population et qu'en France, il y a pour le moment les défenses immunitaires nécessaires contre ce discours-là. Parce qu'on a vu quand même un fait exceptionnel pendant ces législatives. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, non seulement on n'a pas eu de barrage républicain contre Marine Le Pen, mais on a eu un barrage républicain anti-Mélenchon. C'est-à-dire que dans les face-à-face RN-Mélenchon, la plupart des électeurs, même les électeurs modérés, ont choisi le Rassemblement National et c'est ce qui explique en partie le score de Marine Le Pen. Donc il y a une grande partie des Français qui résistent à cette idéologie. Ce qui est inquiétant, c'est le poids qu'elle peut prendre, par exemple, dans les universités, voire à l'école. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on ne va pas faire un lavage de cerveau, justement, aux jeunes, aux enfants, en leur inculquant cette idéologie-là. C'est pour ça que d'un côté, on peut dire c'est minoritaire, il ne faut pas prendre ces gens-là au sérieux. Moi, je crois qu'il faut les prendre au sérieux pour déconstruire justement leur discours pour éviter que demain on ait une génération totalement woke qui confonde la police et les voyous.
Alexandre Devecchio, je viendrai.
C'est la preuve que dans le débat interne, si vous me permettez, à la gauche, il faut que la gauche républicaine, qui sur les questions de sécurité, de maîtrise des flux migratoires, de laïcité, retrouve sa place. Parce que le débat qui est posé effectivement, c'est qu'il y a une radicalisation à gauche et que cette radicalisation à gauche ne crée pas une majorité dans le pays. Que c'est sur une ligne réformiste.
Moi, je vous dis, il va falloir réinventer. Et vite.
C'est presque ce que j'allais dire.
Julien Drey, merci beaucoup. Alexandre Devecchio, merci. L'info se poursuit dans un instant. C'est l'heure des Pro 2 avec un certain Julien Pasquet.